Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Débat exceptionnel, diffusion exceptionnelle. Hier à cette heure-ci, à la place d'Appel sur l'actualité, vous étiez certainement en train de suivre le débat africain d'Alain Foka avec quatre invités de marque, deux chefs d'État, le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassane Ouattara, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, et Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, une émission réalisée dans la capitale sénégalaise à l'occasion du Forum de Dakar sur le développement durable et la dette soutenable en Afrique. Il a donc été question durant 50 minutes de la dette. L'Afrique est-elle surendettée? Le continent peut-il financer son développement lorsque plus de 40% des recettes budgétaires sont consacrées justement au remboursement de la dette? En tout cas, tous ont tenu à souligner que dans la majorité des pays africains, la dette a été utilisée pour doper la croissance et créer des emplois. Une croissance à 6, 7, 8% dans 25 pays, a dit la patronne du FMI. De quoi faire rougir de honte le reste du monde, a-t-elle affirmé. Seulement voilà, vous le savez, une partie de la population a le sentiment que seule une minorité profite de cette dynamique. En tout cas, pour le président sénégalais Macky Sall, et je le cite, « la croissance se mange ». C'est une façon pour le président sénégalais de répondre finalement à tous ceux qui affirment que malgré les chantiers, les infrastructures qui se multiplient, la pauvreté stagne, la croissance ne remplit pas suffisamment l'assiette, d'où l'expression du président sénégalais, la croissance se mange. Alors partagez-vous ce constat, qu'en est-il dans votre pays? Avez-vous l'impression que l'endettement a servi à promouvoir le développement? 33 9 693 693 70, plusieurs centaines de commentaires postés aussi bien sur WhatsApp que Facebook, j'en lirai évidemment quelques-uns. Allez, je commence avec Seydou. Seydou est au Bénin, il nous dit « Malheureusement, le constat sur le terrain est tout autre. En Afrique, le véritable problème, c'est la destination de cette dette qui est souvent en déphasage avec l'objectif premier et d'ajouter le véritable problème du développement, c'est d'abord la bonne gouvernance. » Bonjour Abdou.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, vous avez suivi justement votre président Macky Sall hier sur l'antenne de RFI. Êtes-vous d'accord avec son approche, avec son analyse concernant l'endettement du continent africain en général et l'endettement de votre pays, le Sénégal en particulier?
Effectivement, j'étais hier même présent in situ à la salle. J'ai suivi avec intérêt les débats. Mais je vous dis tout de suite que moi je suis en porte-à-faux totalement de ce qu'il a développé du début à la fin. Je ne suis pas du tout d'accord dans son analyse. Je suis professeur de géographie économique, je sais de quoi je parle.
Ah bien, argumentez, allez-y, nous vous écoutons.
Bien, en ce qui concerne la dette, Juan, en tout cas, je ne sais pas pour les autres pays de l'Afrique, mais pour le Sénégal, la dette, la gestion de la dette a été un scandale. Et un scandale, c'est des détournements des deniers publics. Vous savez, Juan, au Sénégal, vous le savez bien que moi, des premiers ministres ont fait la prison, des fils de présidents ayant occupé des postes stratégiques ont fait la prison pour des histoires de détournement de fonds publics, de fonds généralement acquis par dette, et qui était destiné à financer des projets d'infrastructure. Et là, le constat qu'on a fait, tous les Sénégalais ont constaté, c'est qu'il y a une surfacturation extraordinaire qui a été faite dans l'investissement qui a été fait. Du coup, le pays s'est endetté, les infrastructures sont de piètre qualité, plus on avance, plus la dette augmente et plus la population ne voit pas l'intérêt pour le pays de s'endetter.
Mais en même temps, Abdou, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Ces infrastructures dont vous parlez, cette autoroute qui relie Dakar au nouvel aéroport, ce nouvel aéroport, le train express régional, et voilà, j'arrête là parce que la liste est tout de même assez longue. Ces infrastructures, elles sont tout de même nécessaires. Elles permettent de créer des activités, de générer de l'argent, de payer des salaires, voyez.
Oui, je ne disconviens pas. Mais Juan, vous savez, au Sénégal, il y a une question de priorité. Ce n'est pas une question prioritaire. Je vous dis, Juan, au Sénégal, aujourd'hui, il y a encore des millions de Sénégalais qui meurent par faute de soins. Les hôpitaux sont des mouroirs. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures scolaires. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une mauvaise gestion vraiment de la dette.
Oui. Je ne suis pas là pour faire le porte-parole de Macky Sall, mais c'est intéressant. Vous dites, voilà, vous parlez des universités. Il a dit que l'éducation sénégale le budget de l'éducation avait été multiplié par deux. Son budget, non, excusez-moi, je reprends mes notes parce que j'écoutais attentivement, évidemment. Il disait, le budget de l'éducation est 2,5 fois supérieur à celui de la défense. Les bourses d'étudiants, nous sommes passés de 20 milliards à 66 milliards de bourses annuelles.
Oui, moi je doute fort. Avec tout le respect que je dois au président, je doute très fort de la sincérité et de la véracité de ses propos. Les auditeurs peuvent témoigner, ils peuvent aller tous faire des recherches sur Internet pour voir que ces chiffres qui sont avancés ne sont pas forcément la réalité. Et même si il y a une vérité quand même, c'est que le Sénégal, au Sénégal, le budget de l'éducation est certes important, mais l'ensemble du budget alloué à l'éducation ne sert qu'à entretenir une bureaucratie. Le budget de l'éducation n'est pas utilisé, par exemple, dans la construction de bâtiments, la formation des professeurs de qualité. Non, c'est plutôt utilisé dans la bureaucratie. Il y a des syndicats qui ont fait une étude.
En tout cas, point-là, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec le président Macky Sall. Hein. Vous êtes clairement opposé, vous avez une analyse complètement différente. C'est votre droit, vous l'avez exprimé sur l'antenne de RFI. Et c'est tout l'intérêt, justement, de prolonger le débat entre nous et de vous entendre, vous, si citoyen qui avait suivi ce débat africain exceptionnel hier avec Alain Foka. Bonjour Achille.
Bonjour.
Alors, s'endetter pour financer les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, ce n'est pas une mauvaise chose, avez-vous dit au Standard?
Oui, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je vais vous donner un exemple simple. La Côte d'Ivoire emprunte de l'argent à la Chine pour construire un hôpital. Normalement, la Côte d'Ivoire, après 60 ans d'indépendance, doit avoir des effectifs, des entreprises pour construire des hôpitaux. Mais on donne le marché à une entreprise chinoise, les ingénieurs sont chinois. À la fin, l'argent de la Côte d'Ivoire reste en Chine, la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire est un hôpital, mais l'hôpital, lui, il profite aux Ivoiriens. Mais les entreprises ivoiriennes ne voient pas la couleur de l'argent.
Oui. Vous souhaiteriez que ce soit des entreprises ivoiriennes qui contribuent à la construction des hôpitaux, des autoroutes, enfin bref, de toutes les infrastructures, de tous les chantiers qui poussent depuis quelques années, qu'on voit apparaître ici et là, à Abidjan et à travers le pays.
Je vous promets, vous prenez le troisième pont, vous prenez le quatrième pont, vous prenez le stade de Bempé, il n'y a pas une entreprise ivoirienne. Le troisième pont, c'est français, c'est Bouygues, le stade de Bempé, c'est chinois, le quatrième pont, c'est chinois. L'argent reste seulement le reste sur le pays qu'il a emprunté, qu'il a prêté. Les entreprises ivoiriennes doivent profiter de ces investissements.
Bien sûr.
Lorsque les États-Unis lancent des New Deal, c'est des entreprises américaines qui exécutent le marché.
Donc il faudrait une sorte de protectionnisme, privilégier les entreprises locales, ivoiriennes ou sous-régionales, lors de la construction des infrastructures. Achille, j'interromps là la conversation, le réseau téléphone n'était pas très très bon malheureusement avec Abidjan. En tout cas, merci d'avoir contribué à la réflexion. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
David, ça va bien? À Port-Gentil, ça va très bien, on vous entend très très bien. Vous êtes au Gabon, David, qu'avez-vous pensé du débat exceptionnel hier sur l'antenne de RFI? Avez-vous été d'accord avec les arguments des différents présidents et de la patronne du FMI?
Pas du tout. La réalité sur le terrain est tout autre. Hein. Et moi, j'irais même plus loin en disant qu'il existe peut-être une connivence criminelle, hein, je vais peut-être être dur, entre l'élite politique des pays africains et les institutions financières internationales. Alors, nous, on ne comprenons pas pourquoi. En fait, le problème que moi je pose, c'est au niveau du suivi, lorsqu'on donne de l'argent à un pays, par exemple, pour construire telle ou telle infrastructure, mais il faut quand même que les bailleurs de fonds, hein, et ses dirigeants viennent regarder l'avancée des travaux. Alors que... moi, je parle du cas du Gabon, spécifiquement. On continue à donner de l'argent, des centaines de milliards d'euros ou de dollars, mais en réalité, il n'y a pas d'infrastructure qui sort de terre.
Oui, ça, enfin, excusez-moi, David, là, vous parlez de l'aide publique au développement. Si l'Union européenne prête de l'argent au Gabon, puisque c'est votre pays, on parle du Gabon, certes, l'Union européenne a un droit de regard sur la façon dont cette somme est gérée. Mais... l'investissement, les dons, lorsque vous allez demander des prêts, ce n'est pas forcément auprès d'autres États. À partir du moment où vous vous engagez à rembourser la somme que vous demandez, faut-il que les investisseurs jettent un coup d'œil sur la façon dont l'argent est dépensé, vous voyez ?
Mais bien sûr, monsieur. Moi, je pense qu'il faut un droit de regard sur le suivi des travaux, parce que il ne sert à rien de donner de l'argent à une élite dirigeante et... au résultat, en fait, c'est la dette qui accroît Il va accroître la dette et qui va payer cette dette au final? Ben, c'est le contribuable. Oui. Donc je pense qu'il faut en réalité regarder ce qui se passe et ça ne sert à rien de donner des centaines de milliards à chaque fois alors qu'il n'y a pas de suivi. Et paradoxalement, là où moi je veux en venir, c'est qu'en même temps, les pays, moi je parle du cas du Gabon, en 2019, je vais vous prendre un exemple, le Gabon a remboursé plus de 107 milliards de francs CFA en termes d'intérêt sur la dette. Hmm. Vous voyez un peu?
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Alors que...
Voilà. Alors effectivement, alors ça a été évoqué hier. Hein, je crois que c'est le président Macky Sall qui, était un peu surpris qu'on continue à ne pas forcément faire confiance au continent africain. Et du coup, l'Afrique, quand elle demande des prêts, les taux d'intérêt sont particulièrement élevés. Et sur ce point, plusieurs d'entre vous qui nous écoutez partageaient l'inquiétude, ou en tout cas le constat du président Macky Sall. Il y a par exemple Ibrahima qui nous dit: en Europe, l'Allemagne s'endette sur les marchés financiers à un taux largement inférieur à 1%, alors que nos États ouest-africains s'endettent avec un taux supérieur à 6%. La dette en Afrique, nous dit Jules, il faut revoir le taux de remboursement. Soucia, lui non plus, n'est pas contre la dette, mais je suis contre le taux d'intérêt qui est extrêmement élevé. Mais il faut peut-être changer aussi la perception de l'image, la perception que les investisseurs ont du continent africain, David. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt peut-être baisseraient.
Oui, excusez-moi, je voudrais rapidement pour terminer. Où vont d'abord les budgets? Parce que chaque année, les pays dégagent des budgets. Où vont d'abord ces budgets avant de parler d'endettement? Parce que c'est ça. Parce que même au niveau des budgets, on ne voit pas ce qui est fait avec ces budgets. Mmh. Les routes sont catastrophiques. Il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, il n'y a pas de logement, oui. Le chômage, à quoi? Alors, à quoi servent ces budgets?
Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, l'a dit hier, en Côte d'Ivoire, on a construit des routes. Sans routes, comment évacuer le cacao vers le port d'Abidjan? En 8 ans, nous avons construit plus d'écoles qu'en un demi-siècle d'indépendance. Nous avons construit 8 universités, alors qu'il y en avait uniquement 3 auparavant. Ce sont des exemples concrets, des exemples qui concernent la Côte d'Ivoire, puisque c'était le président Ouattara qui était invité hier dans le studio spécial de RFI à Dakar. Merci David. Bonne journée à Port-Gentil. Allez, encore des commentaires sur WhatsApp. Grâce, qui est à Kinshasa. Je ne partage pas le constat de vos invités. Chez moi, en République démocratique du Congo, la dette a été un frein au développement. L'argent qui devait être investi dans les projets n'a servi qu'à rembourser les dettes contractées par Mobutu, qui lui avait permis de se construire des maisons à l'étranger. Voilà le commentaire de Grâce. Bruno nous dit que la dette n'est pas un problème, mais c'est son utilisation qui pose problème. Voilà un point qui revient très souvent dans vos propos. Yeo, bonjour.
Bonjour, Juan.
Yeo, à Abidjan, Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
Juan, sur la question, je voulais appeler l'ensemble donc, des intellectuels africains à faire preuve de lucidité face aux nouveaux défis qui se présentent à notre continent, l'Afrique. Pour nous, l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. L'Afrique à elle seule ne pourra pas financer le développement, son développement. Rappelez-vous, Juan, en 1947, en Europe, il a bien fallu le plan Marshall pour le développement de ce continent. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un cas exemple en Afrique. Le président Alassane Ouattara, économiste chevronné qui a fait ses preuves à l'international à travers la bonne gouvernance, utilise la dette au service de la croissance et de la prospérité.
Oui, Yeo. J'entends vos arguments, mais vous connaissez, et là encore, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y a une expression populaire, depuis 4-5 ans. Vous avez vu les chantiers poussés ici et là à Abidjan. Et cette expression populaire, que dit-elle? Elle dit « on ne mange pas goudron, on ne mange pas béton ». C'est-à-dire que les ponts et le goudron qu'on voit de plus en plus ne suffisent pas à remplir l'assiette des Ivoiriens. Donc tout le monde n'a pas l'impression de profiter de cette dynamique économique, de profiter de la croissance.
Oui, mais Juan, il faut revenir en 2010. Bon. Le président Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire pratiquement à terre. Notre pays était à terre. Juan, les chiffres sont là. Il faut faire preuve de bonne foi. La croissance économique est à moins de 8,6%.
Oui. Mais est-ce qu'elle profite à tout le monde, la croissance? Est-ce que la croissance est inclusive? C'est ça la question. Oui, il y a une croissance, personne ne peut le nier.
Le taux de pauvreté, Juan, est passé de 51% en 2012
oui.
à 46%.
À 46%, oui, certes, il y a une petite baisse, mais petite. On est encore à 46% de taux de pauvreté, alors que la croissance est à 8% depuis 5-6 ans. Yeo, c'était passionnant, mais je regarde la pendule, je vois que le temps passe très très vite. Et il y a Blaise, il y a Emmanuel, il y a d'autres auditeurs qui souhaitent s'exprimer. Emmanuel à Brazzaville, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Emmanuel, nous vous écoutons. Qu'avez-vous pensé du débat hier?
Alors, moi, j'ai pensé que ce débat était un débat politique qu'économique, hein, parce que ça, parfois nos dirigeants s'expriment beaucoup plus dans l'angle politique. Mais quand nous voyons la réalité sur le terrain, moi, je pense que la dette pour nos pays n'a jamais été une source de développement. Tout au contraire, elle, comme je l'ai dit, elle nous appauvrit de plus en plus. J'ai entendu David qui a parlé du Gabon. Je pense que nos pays sont assez riches et nous avons assez de ressources que nous pouvons engranger par nos biens et développer nos pays que de continuer à nous endetter. Quand le président Ouattara parle de ce qui a été fait, mais au Fouet Boigny, aux années 60, 70, 80, il y avait déjà des autoroutes en Côte d'Ivoire. Ces autoroutes ont été construites, ce n'est pas avec la dette, c'est avec du cacao.
Oui.
Voilà.
Oui, enfin.
Et aujourd'hui, oui.
Mais il faut bien des investisseurs. Et les investisseurs arrivent et prêtent de l'argent. Pour qu'un pays se développe, il faut bien trouver.
Mais, non, Juan, on n'a pas besoin d'investisseurs pour nous prêter de l'argent. Ils peuvent investir et avoir un retour sur leur investissement du business et du donnant-donnant. Mmh. Mais on n'a pas besoin d'emprunter pour payer avec des intérêts colossaux. Mmh. Finalement, c'est le peuple qui souffre. Parce que quand nous regardons en réalité ce qui est fait, c'est des choses qui sont faisables avec les revenus de nos matières premières.
Oui, donc pas besoin de s'endetter. Il y a Moussa sur WhatsApp qui nous dit « La dette n'est pas un frein au développement. Elle permet d'obtenir des fonds pour lancer ou relancer les secteurs qui en ont besoin. L'Afrique est ciblée. Elle est accusée de tous les maux. Et pourtant, les pays développés sont parfois plus endettés que l'ensemble des États africains. Quel est le montant de la dette de la France ?» nous demande Moussa. « Quel est le montant de la dette de l'Allemagne et celui du Japon ?» Alors, j'ai regardé très vite. Hein. La France atteint presque 100% de dette du PIB, la dette. L'Allemagne, 60% du PIB et 240% pour le Japon. Autre Emmanuel à Madagascar, bonjour.
Bonjour, oui.
Est-ce que bienvenue, vous êtes à Antananarivo, dans la capitale.
Oui, c'est bien cela, oui.
Êtes-vous d'accord avec Emmanuel à l'instant qui disait on n'a pas besoin de s'endetter, l'Afrique peut se développer sans s'endetter?
C'est-à-dire il faut faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par voir qu'est-ce qu'on peut faire disons, financement de l'intérieur même, en ayant une politique monétaire vraiment et budgétaire qui soit correcte. Donc, je pense d'abord que les gouvernants, ils doivent considérer d'abord ce volet financier. Et c'est seulement après, c'est seulement un facteur parmi tant d'autres, disons... la dette après.
Mmh.
Oui.
D'accord.
Donc, il y a ça. Et puis, disons, pour le développement, il y a un besoin de financement, c'est sûr. Mais le constat à Madagascar, la dette a été mal utilisée depuis 61 années de République à Madagascar. Parce que les conditions préalables au développement n'ont pas été mises en place.
Ouais,
Madagascar, c'est un grand pays, c'est plus grand que la France.
Bien sûr, c'est un grand pays et qui se retrouve aujourd'hui extrêmement endetté. Merci beaucoup Emmanuel, je suis obligé d'interrompre ici ce débat, cette discussion passionnante. Demain, on se projettera vers l'élection présidentielle de l'année prochaine en Côte d'Ivoire avec cette petite phrase d'Alassane Ouattara qui a dit en substance « S'il se présente, eh bien, je serai moi aussi candidat », référence à Henri Conan-Bédier ou Laurent Gbagbo. Demain, on vous attend au standard. À suivre dans 10 minutes, évidemment, Priorité Santé. Caroline Paré, toute la semaine, elle est à Kigali. Caroline, bonjour.